La parole des contes avec Anne Wong.
Oi quando è bello non morire a chita, oi quando è bello non morire a chita, nanna la portarella innamorata. Nanna la portarella innamorata. Poi quando è bello non morire a gita, poi quando è bello non morire a gita. Nanna la portarella innamorata, nanna la portarella innamorata. La ramazzana taglia in paradisa, la ramazzana taglia in paradisa.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à La Parole des Contes. Et nous allons aller ensemble un petit temps dans la forêt des contes. Et moi qui vous parle, chers auditeurs, je n'ai eu ni frère ni sœur, et donc je m'interroge sur la relation des frères et sœurs dans l'univers des contes. Et donc voici l'un des contes sur la question, et nous aborderons ce sujet à travers différentes émissions. Donc là, pour commencer cette série, nous verrons les deux frères dans le conte des contes de Basile, qui est donc de 1600 et quelques. Alors il est napolitain, il n'est pas que italien, il est napolitain, donc il parle dans la langue napolitaine et qui donne un certain charme que je ne pourrais pas vous faire en français. Mais donc c'est une langue très fleurie et qui va être dithyrambique sur les conseils du père à ses deux fils, donc les deux frères. Il était une fois un père qui avait deux fils, Marcuccio et Parmiero. Comme il était en passe de régler ses comptes avec la nature et de détruire le cahier de la vie, il les appela près de lui et leur dit « Mes chers enfants, même si la loi du royaume l'interdit, les sbires du temps ne vont pas tarder à fracasser la porte de mes années. » pour saisir les biens de ma vie et régler ainsi les hypothèques que j'ai contractées avec la terre. C'est pourquoi, comme je vous aime plus que la prunelle de mes yeux, je ne veux pas vous abandonner sans vous laisser quelques souvenirs. Ainsi, vous pourrez naviguer avec la tramontane des bons conseils dans ce golfe rempli de dangers. Et arriver sans encombre à bon port. Ouvrez donc vos oreilles. Car même si ce que je vais vous donner vous semble peu de choses, sachez qu'il s'agit d'une richesse que les malandrins ne vous déroberont pas, d'une maison que les tremblements de terre ne pourront ébranler, d'un terrain que les vers ne pourront pas dévaster. Donc, per primo e avant tutto, craignez le ciel. Tout vient de là-haut, qui s'égare et grillé. Ne vous laissez pas juguler par la paresse comme des porcs près de l'eau rouge. Garçon d'écurie n'étriche jamais son propre cheval. Il faut faire son chemin à coups de pied, à coups de poing. On travaille pour autrui et on mange pour soi-même. Épargnez votre bien. Qui épargne, gagne. Les petits sous font les gros ducats. Qui conserve, trouve. Avec bonne sauce, bonne salade. Accumulez, vous mangerez. Construisez solidement, car parents et amis ne fréquentent point maison vide. Avec bon argent, on peut construire. Avec bon vent, on navigue bien, mais qui argent n'a, et a nous pantins et souffle des matins. Car, doux amis, les entrées règlent les dépenses. Ne pète pas donc plus haut que ton cul. Ne renifle pas plus grand que ton nez. Mange selon ton appétit. Petite cuisine fait grande maison. Ne caquette pas trop. La langue n'a pas d'os, mais elle brise l'échine. Écoute, regarde et tais-toi. Si tu veux vivre en paix, t'as vu, t'as entendu et bouche cousue. Mange peu, parle moins encore. Rester chez soi ne fait de mal à personne. Langue trop pendue souvent se trompe. Contentez-vous de peu, mes fils. Mieux vaut fève durable que douceur périssable. Mieux vaut plaisir de gueux que souffrance de compte. Faute d'avoir la viande, buvez le bouillon. Faute de mieux, dormez avec votre femme. Quand on t'aime, mets-toi, aide-toi. Qui ne peut avoir la chair, qu'il ronge l'os. Ne traitez qu'avec meilleur que vous, et payez le prix. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. À fréquenter les boiteux, on finit par boitiller. À dormir avec les chiens, on récolte les puces. Donne aux méchants ton bien, et qu'il passe son chemin, car mauvais compagnons te font gibier de potence. Pensez avant d'agir, mes fils. Il faut pas fermer les tables quand les bœufs se sont enfuis. Quand le tonneau est plein, fermez-le. Mais s'il est vide, pourquoi le fermer? Mastiquez avant d'avaler, car chatte trop pressée accouche de chatons aveugles. Qui va lentement, va sûrement. Fuyez querelles et disputes, ne butez pas sur toutes les pierres, qui trop franchit de pieux finit en palais. Le cheval rétif prend plus de coups qu'il n'en donne, qui joue du couteau récolte le poignard. T'en va la cruche au puits, qu'elle y perd son anse. La potence est faite pour le misérable. Ne vous laissez pas aveugler par l'orgueil. Nappe blanche ne signifie rien. Incline-toi et travaille. Bonne maison ne fume pas. Le bon alchimiste filtre ses distillats dans la cendre pour qu'il ne sente pas la fumée. Et l'homme de bien doit se souvenir de réduire en poussière ses pensées d'orgueil pour ne pas être enfumé par l'autosuffisance. Mêlez-vous de vos oignons. Qui pèle ceux des autres risque d'y laisser sa peau. Seuls les couillons taxent les cornichons et mettent leur sel dans ta marmite. N'intriguez pas avec les seigneurs, mieux vaut tirer la scène que de servir en cour. L'amour d'un seigneur est comme le vin, parole et pomme pourrie. Chez eux, le travail est stérile, les projets sont vains, les espoirs se brisent. On s'échine sans compassion, on court sans repos, on dort sans paix, on chie sans chandelle, on mange sans goût. Gardez-vous du riche appauvri comme du pauvre enrichi, du pauvre air désespéré, du serviteur dévoyé, du prince ignorant, du juge intéressé, de la femme jalouse, de qui remet toujours tout à demain, du courtisan, de l'homme imberbe, de la femme barbue, du fleuve trop calme, de la cheminée trop fumeuse, du mauvais voisin, de l'enfant capricieux, de l'homme envieux. Enfin, mes fils, apprenez ce qui a un métier, à un état, et qui a un peu de plomb dans la cervelle, ses dents de sagesse et les oreilles larges ouvertes, peut survivre même au fond des bois. Car un bon cheval a toujours une selle. Et moi, j'aurais encore mille choses à vous dire. Mais voici que la mort me saisit, et le souffle me manque. Il eut à peine la force de lever la main pour les bénir. Les voiles de sa vie s'abaissèrent et il entra dans le port où vont finir tous les tourments du monde. Après le départ de son père, Marcuccio, qui avait graffé ces mots au plus profond de son cœur, entreprit d'étudier, de fréquenter les académies, de jouer sa barrette dans des joutes d'éloquence, de disputer sur de nobles sujets, si bien qu'en un tournement, il devint le plus savant de tous les savants du pays. Mais comme la valeur est marquée au sceau de la misère, et que l'eau de la fortune glisse sur qui barbote dans l'huile de Minerve, le pauvre bougre était toujours sans le sou, toujours à sec. Cœur limpide et cruel envie, comme dit le refrain de la chanson, et il était le plus souvent rassasié de livres et avide de lièvres, fatigué d'étudier les sentences et mendiante assistance, toujours à éplucher le digeste, mais toujours à jeun. De son côté, Parmiero vivait une vie de bâton de chaise, au jour le jour, courant du jeu à la taverne, mûrissant à la va comme je te pousse, sans pratiquer le moins du monde, la vertu. Malgré ça, glanant et grappillant, il se constitua une belle litière. Alors Marcuccio regretta hautement de s'être égaré en suivant les conseils de son père, puisque Donato n'avait rien donné, que les trésors l'avaient appauvri, qu'il remplissait sa cervelle, mais vidait ses poches, tandis que Parmiero, en lançant ses osselets, se gavait de bonne chair et se calait bien le gosier en coinçant la bulle. Pour finir, excité par le prurit de la nécessité, Marcuccio alla trouver son frère et le supplia, puisqu'il semblait être le chouchou de la fortune, de se souvenir qu'un même sang coulait dans leurs veines et qu'ils étaient tous deux sortis du même trou. Parmiero, que les débordements de la richesse avaient constipé, lui dit « Ah, tu as voulu suivre les conseils de notre père et entreprendre des études. Et tu n'as pas cessé de me reprocher mes controverses et mes divertissements. Eh bien, maintenant, va ranger tes livres et laisse-moi en paix avec mes tracas. Pourquoi te donnerais-je du sel quand je peine tant pour ramasser les 4 sous que j'ai ? Tu es majeur et raisonnable. Qui ne sait pas profiter de la vie, ben tant pis pour lui. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Si tu n'as pas de trèfle, joue donc du pic. Si tu as faim, Ronge tes pouces si t'as soif, ronge ton cul. L'ayant chapitré ainsi et autrement, il lui tourna le dos. Quand Marcuccio vit que son propre frère le traitait avec une telle chiennerie, il tomba dans un désespoir si corrosif qu'il décida de séparer son âme dorée de son corps fangeux. Il se dirigea donc vers une montagne très très haute, que la terre chargeait d'espionner ce qui se tramait dans les nuages, ou mieux, qui, grand turc de tous les monts, haussait dans le ciel sa tête enturbanée de nuages pour épingler une étoile sur son front. Donc, il escalada tant bien que mal cette montagne, en empruntant un petit chemin très, très étroit, très, très escarpé, qui serpentait de surplomb en ravin. Et quand il fut arrivé au sommet, il se plaça au bord d'un grand précipice qui était là. Et ouvrant toute grande les vannes de ses yeux, il lança un long lamento, puis s'apprêta à se précipiter en bas la tête la première. Lorsqu'une très belle jeune femme, toute de vert vêtue, ses longs cheveux de fil d'or couronnés de lauriers, le saisit par le bras et lui dit « Mais que vas-tu faire, pauvre bougre ? À quoi ta cervelle t'entraîne-t-elle donc ? Est-ce là le savant qui a consommé tant d'huile et de sommeil pour étudier ?» L'homme qui, pour faire naviguer sa réputation comme une galère bien calfatée, a fait maigre si longtemps, et tu perds pied maintenant au meilleur moment. Tu n'utilises pas contre la misère et le destin ces armes que tu as forgées au foyer des études? Ne sais-tu pas que la vertu est un orvietant contre le poison de la pauvreté, une herbe contre le catarrhe de l'envie, une potion contre la maladie du temps? Qu'elle est une boussole pour s'orienter dans la tempête des calamités, une torche de résine pour cheminer dans l'obscurité des tracas, un contrefort solide pour résister au séisme des tourments. Misérable, reviens à toi et ne tourne pas le dos à qui peut te donner du courage dans les périls, de la force dans l'adversité, de la patience dans le désespoir. Sache que le ciel t'a conduit sur cette montagne si escarpée où habite précisément la vertu, pour qu'elle même que tu accuses à tort, détourne tes pas du mauvais dessein qui t'aveugle. Redresse-toi, console-toi, change d'idée. Tu dois savoir que la vertu est toujours bonne et valeureuse, et pour cela prends ce cornet de poudre et va jusqu'au royaume de Grand Pré. Là, tu trouveras la fille du roi qui récite en ce moment le Confitemini et personne ne peut remédier à son mal. Mélange cette poudre à un œuf et tu délogeras aussitôt sa maladie qui, comme un soldat en garnison, dévore jusqu'à sa vie. Tu obtiendras une si grande récompense que ta misère disparaîtra et tu pourras enfin vivre comme il convient à un savant tel que toi, sans avoir besoin des richesses d'un autre. Marcuccio reconnut la vertu à son petit nez pointu et tomba à ses pieds en lui demandant pardon de l'erreur qu'il allait commettre. Il dit « Oh, mes yeux se sont dessillés. Je vois à ta mise que tu es la vertu, celle que tous acclament, mais que bien peu pratique, celle qui redresse l'intelligence, raillagardit les esprits, affine le jugement, pousse dans le giron des labeurs honorables et aide à s'élever jusqu'au sommet du ciel. Je te reconnais et me repens d'avoir mal utilisé les armes que tu m'avais données. Je te promets que d'ores en avant, ton contrepoison me rendra si invincible que même les giboulées de Mars ne pourront m'atteindre. » Il voulut lui baiser les pieds, mais elle s'esquiva et disparut de sa vue, en le laissant cependant tout heureux, comme un pauvre malade qui reprend conscience et prend son médicament dans un peu d'eau fraîche. Alors, il dévala les pentes de la montagne et s'est mis en marche vers le royaume de Grand Pré. Arrivé au palais royal, il fit comprendre au roi qu'il voulait soigner la maladie de sa fille. Le roi l'accueillit en vainqueur et le conduisit lui-même dans la chambre de la princesse qu'il trouva allongée sur une litière percée dans un tel état de consomption et de décomposition qu'on ne lui voyait plus que les os et la peau. Ses yeux étaient si enfoncés qu'il aurait fallu la lunette de Galilée pour en voir la pupille. Son nez s'était tellement effilé qu'il aurait permis de servir de canule pour administrer un clistère. Ses joues étaient si creusées qu'on aurait dit la mort de Sorrente. Sa lèvre inférieure tombait jusque sous son menton. Sa poitrine était celle d'une pie. Ses bras décharnés n'étaient plus gros que des tibias d'un agneau de lait. En somme, elle était si métamorphosée que lorsqu'on la regardait, la pitié pouvait trinquer avec la compassion. Quand Marcuccio la vit dans cet état lamentable, ses yeux se remplirent de larmes, car il pensait à la faiblesse de notre nature, sujette à tous les dommages du temps, à tous les mouvements du corps, à toutes les difficultés de la vie. Ensuite de quoi il demanda un œuf de poulette primipare, lui donna un petit coup de cuisson, y jeta la poudre, l'ayant fait absorber de force à la princesse, il la recouvrit de 3-4 grosses couvertures. La nuit n'était pas encore arrivée à bon port que la princesse appela ses chambrières pour qu'elle change ses draps, qui étaient tous trempés de sueur. Puis, quand on l'eut essuyée et changée, elle demanda à se restaurer, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis 7 années qu'elle était malade. Tous commencèrent à espérer. On lui apporta du bouillon. Ses forces s'accrurent d'heure en heure. Son appétit se renforça de jour en jour. Si bien qu'au bout d'une semaine à peine, elle était tout à fait remise et elle put sortir de son lit. Alors le roi estima que Marcuccio était le dieu de la médecine. Il le fit baron d'une immense terre et le nomma de surcroît premier conseiller de sa cour, puis le maria à l'une des plus riches dames du pays. Pendant ce temps, Parmiero s'était vu peu à peu dépouillé de tout ce qu'il avait, car au jeu, l'argent va, l'argent vient, et la fortune du joueur croît et décroît selon le cas. Réduit à la misère et à l'infortune, il se résolut à marcher tant que, changeant de lieu, il change de destinée, ou qu'un peu de place se libère sur le registre de sa vie. Après 6 mois de tours et de détours, il finit par arriver dans le royaume de Grand Pré, tellement exténué, tellement fatigué, qu'il ne pouvait plus se tenir sur ses pieds. Voyant qu'il ne trouvait même pas un endroit pour mourir, que sa faim grandissait tant que ses vêtements tombaient en guenilles, il sombra au plus profond du désespoir et, échoué dans une vieille maison hors les murs de la ville, il ôta les lacets de ses chaussures qui étaient de coton filé, les tressa ensemble et en fit un beau nœud coulant qu'il attacha à une poutre. Puis, ayant levé un petit monticule avec des pierres, il grimpa dessus, passa sa tête dans le nœud et se laissa glisser. Mais le destin voulut que la poutre fût vermoulue, pourrie, et qu'elle se rompît sous son poids. Le pendu tomba donc bien vivant sur les pierres, les côtes à peine marquées d'un bobo dont il souffrit pendant plusieurs jours. Cependant, quand la poutre se brisa, il s'en échappa une grosse poignée de chaînes, de colliers, de bagues, tous en or, qui étaient entassés dans le trou creusé par les vers, et entre autres choses, il y avait une bourse en cuir de cordoue, remplie de beaux écus. Alors, Parmiraro, voyant que ce saut du désespoir lui avait fait sauter le fossé de la pauvreté, plana dans la joie. Tout comme auparavant, il plongeait dans la douleur, si bien que ses pieds ne touchaient plus le sol. Se saisissant de ce cadeau de la fortune, il se précipita vers une auberge pour se remettre un peu les esprits en place.
Poi quando è bello non morire agita, nanna la portarella innamorata, nanna la portarella innamorata. Poi quando è bello non morire agita, poi quando è bello non morire agita, nanna la portarella innamorata. Nanna la portarella innamorata, la ramazzana taglia in paradisa, la ramazzana taglia in paradisa.
Justement volé ses trésors à l'aubergiste chez qui Parmiero était descendu se restaurer. Et ils étaient ensuite allés les cacher dans cette poutre dont ils connaissaient l'existence pour pouvoir les dépenser et les dissiper petit à petit. Aussi, quand Parmiero se fut bien rempli l'estomac et sortit sa bourse pour payer, l'aubergiste reconnut aussitôt son bien et appela certains gendarmes, clients de la taverne qui se saisirent de lui et, honorablement escorté, il fut conduit devant le juge qui le fit fouiller et trouva sur lui l'objet du délit. On fit la confrontation, on le jugea coupable et on le condamna à faire des moulinets avec ses pieds sous les trois poutres de la potence. Se voyant dans une si mauvaise passe, lui qui sortait du lacet et devrait maintenant jouer avec une corde, lui qui avait lutté avec une poutre pourrie et devrait jouer avec un madrier tout neuf, le malheureux commença à se démener et à crier qu'il était innocent, qu'il ferait appel de cette sentence. Et comme il allait ainsi, criant et hurlant dans les rues, qu'il n'y avait pas de justice, qu'on n'écoutait pas les pauvres, que les jugements se jouaient au dé, qu'il allait devoir apprendre tricoter des mailles en l'air avec la veuve parce qu'il n'avait pas graissé la patte au juge, amadouer le scribe, solliciter le greffier, payer le procureur, il rencontra par hasard son frère, qui était conseiller au tribunal de la Vicaria et fit arrêter le cortège pour entendre ses raisons. Parmiero lui raconta tout et Marcuccio répondit « Tais-toi, car la chance est avec toi. T'as d'abord trouvé une chaînette de 3 empans, t'en trouveras certainement une de 3 pieds cette fois-ci. Oh les cœurs, La potence est ta sœur de sang. Toi qui as rempli ta bourse alors que les autres y vident leur existence. » À ces évidentes moqueries, Parmiero répliqua « Je viens pour être jugé, non pour être bafoué. Apprends que j'ai les mains pures de cette faute dont on m'accuse. Je suis un homme honnête, même si je vais ainsi déguenillé et dépenaillé. L'imbi ne fait pas le moine. Moi, je n'ai pas écouté Marcione, mon père, ni Marcuccio, mon frère. Et voilà que je dois me soumettre aux arrêts de la justice et m'apprêter à chanter un madrigal à trois voix sous les pieds du bourreau. » En entendant mentionner le nom de son père et le sien, Marcuccio sentit son sang ne faire qu'un tour. Il regarda attentivement Parmiero et finit par le reconnaître. Comprenant que c'était son frère, son âme fut partagée entre la honte et l'affection, entre le sang et l'honneur, entre la justice et la pitié. Il craignait que l'on apprît que son frère était un gibier de potence, mais voir son sang finir ainsi le faisait atrocement souffrir. Sa chair le tirait comme un grappin pour qu'il mît fin à cette affaire. Son honneur lui disait qu'il ne devait pas encourir le mépris royal à cause d'un frère accusé de menée trop grappinante. La justice voulait qu'il donnât satisfaction à l'offensé. La pitié voulait qu'il laissât la vie à son propre frère. Alors que sa cervelle balançait ainsi et que sa coloquinte était très partagée, voilà qu'un envoyé du juge arriva, langue pendante, en criant « Arrêtez ! Arrêtez la justice ! Doucement ! Attendez ! Attendez !»«
Et qu'y a-t-il ? » demanda le conseiller.
L'autre répondit « Il est arrivé une chose extraordinaire ! Fort heureusement pour ce brave jeune homme ! En effet, deux voleurs sont allés chercher des écus et de l'or qu'ils avaient cachés dans une poutre à l'intérieur d'une vieille maison, et comme ils ne le trouvaient pas, chacun d'eux a pensé que l'un avait voulu tromper l'autre, alors ils en sont venus aux mains et se sont blessés cruellement tous les deux. Ils ont tout avoué au juge qui s'était rendu sur les lieux. Il a reconnu l'innocence de ce pauvre homme et il m'envoie pour empêcher l'exécution et le libérer, puisqu'il n'est pas coupable. »
À ce discours, Parmiero se redressa d'un empan, lui qui, un instant auparavant, craignait d'allonger d'une brasse. Quand Marcuccio vit qu'on rendait son honneur à son frère, il se fit connaître en disant « Mon frère, si tu as compris que les vices et le jeu t'ont conduit à la ruine, essaye d'apprendre maintenant le plaisir et les bienfaits de la vertu. Viens donc, comme il te plaira, dans ma maison, où tu jouiras avec moi des fruits de cette vertu que tu haïssais tant. Pour moi, j'oublie le mépris dont tu m'as accablé, et sois certain que je te chérirai comme les prunelles de mes yeux. » Disant cela, il l'embrassa, l'emmena chez lui, l'habilla de pied en cap, et lui apprit avec force exemple que tout n'est que fumée et que seule la vertu rend les hommes heureux.
Quan spunta la luna a marghiare, pur li pisce ce fanno l'amore. Sera vota nell'onda del mare, con la briezza cagna una colore, quando spunta la luna a marghiare. A marghiare c'è sta una finestra, a passione mia c'è tuzzulea, nu carofana d'ora dinta una testa, passa l'acqua per sotto e mormulea, a marghiare c'è sta una finestra.
Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cette histoire venue de quelques siècles derrière nous et qui pourrait encore être d'actualité. Qu'est-ce que la vertu aujourd'hui? Et vous pouviez remarquer aussi comment ils s'en sont sortis tous deux, les deux frères, un peu par le hasard et suite quand même à une tentative de suicide échouée. Faut-il donc se suicider pour obtenir la richesse ou les désirs? Faudrait-il que je me suicidasse pour que vous daigniez mettre quelques commentaires sur les divers podcasts que j'ai déposés sur la radio? Enfin, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine. Și tăta carulica l-are duce.